Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Arrêt sur Image. Ils étaient près de 8 millions aux élections européennes, plus de 10 aux législatives à voter pour l'ERN et ses alliés des Républicains. Mais qui sont-ils ? Tous racistes ou simplement tous désabusés, ou peut-être les deux. C'est un peu en ces termes que le cadrage médiatique s'est fait. Il y a ceux qui ne veulent pas ou plus entendre parler des motivations les moins avouables du vote pour l'extrême droite. Racisme, islamophobie, antisémitisme, vieille rengaine qui ne suffirait plus à expliquer la situation, disent-ils, à l'analyse idéologique et préfèrent l'analyse sociologique d'un électorat laissé à la marge, abandonné, en colère. Prompt à renverser la table une bonne fois pour toutes, et si les deux explications n'étaient pas incompatibles. Pour en avoir le cœur net, notre invité du jour a passé 6 ans sur le terrain à rencontrer cet électorat entre 2016 et 2022. 6 ans d'enquête sociologique, d'entretien, d'analyse pour tenter de dégager une réponse. Et forcément, elle n'est pas si simple qu'on la voudrait. Une somme publiée aux éditions du Seuil sous le titre « Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite ». Bonjour Félicien Faury.
Bonjour.
C'est vous l'auteur de ce livre. Vous êtes sociologue, politiste, rattaché au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et donc, je le disais, 6 ans à travailler sur cette enquête. Et première question, votre enquête est centrée sur la région PACA. Pourquoi cette région ? Parce que d'emblée, on pourrait se dire, c'est l'électorat du RN qu'on connaît. On se dit, issu d'anciennes familles de pieds noirs, nostalgique de l'Algérie française. Pourquoi donc la région PACA ?
C'était avant tout pour donner une image moins homogénéisante de l'électorat lepéniste, mais moins sur les questions d'insécurité, d'immigration, le rapport à l'Algérie, etc., que pour des différences de classe sociale. En fait, il n'y a aucune étude, à ma connaissance, qui montre qu'il y a des différences significatives entre l'électorat dit du Nord ou l'électorat ouvrier et l'électorat dit du Sud.
Qui sont les deux bassins majeurs de
votre... C'est ça, exactement, qui sont les deux bastions. Il y a souvent une différence un peu caricaturale qui est faite entre ces deux électorats. En tout cas, sur les questions d'insécurité, d'islamophobie, de refus de l'immigration, dans les enquêtes, il n'y a aucune enquête qui montre de manière significative qu'il y a une différence sur ces thématiques-là entre ces deux types d'électorats. Et sur la question des pieds noirs, il faut aussi toujours préciser que, évidemment, ça a son importance. Et ça marque le territoire, notamment dans le sud-est. Bon, les pieds noirs, il y en a beaucoup aussi qui ne votent plus et qui, en fait, aussi ne sont plus de ce monde. Et il y a des ascendances pieds noirs, donc ça peut jouer. Mais moi, j'ai discuté avec beaucoup de personnes aussi qui n'ont aucun lien familial, on va dire, avec l'indépendance algérienne et qui peuvent tenir des discours similaires, en fait, à d'autres personnes qui, pour le coup, ont des ascendances pieds noirs. Donc la décolonisation, je pense, ça n'a pas concerné que le Sud-Est, mais en fait la société française en son entier. Et je retrouve des schèmes racistes de type contre-colonisation, par exemple, également dans des personnes qui n'ont pas de lien direct avec, je l'ai dit, la décolonisation. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, en fait, ce sont des différences de classe sociale entre l'électorat, on va dire ouvrier, frappé par la désindustrialisation, qu'on trouve tendanciellement davantage dans le Nord, même si, encore une fois, il ne faut pas caricaturer, et un électorat du Sud-Est, où je me suis intéressé davantage à des classes populaires qu'on dit établies en sociologie, donc qui ont un statut socio-professionnel stable, qui sont souvent propriétaires de leur logement, et des petites classes moyennes, des professions intermédiaires, qui représentent un électorat toujours très très important pour le Rassemblement national, encore de nos jours, et j'allais dire d'autant plus de nos jours, avec cette stratégie de normalisation et la volonté du Rassemblement national de justement capter ces classes moyennes, ces franges intermédiaires de la société française, et dépasser en fait son recrutement strictement ouvrier.
Et alors, question toute bête de méthodologie, mais comment on les trouve ? Parce que vous interrogez énormément d'électeurs du RN dans cette enquête. Il y a des pompiers, des employés, il y a des fonctionnaires. Enfin, il y a un peu toutes les classes, pas toutes évidemment, mais en tout cas, c'est assez représentatif. Comment on les trouve ?
C'est pas si difficile, j'allais dire. L'enjeu, c'est plutôt d'arriver à faire des entretiens approfondis, répétés, longs, en confiance avec ces électeurs et ces électrices. Moi, j'habitais là-bas, j'ai habité longtemps dans le terrain que j'étudie. Comme souvent, en fait, mon lieu de recherche, ça a été mon lieu de vie. J'ai discuté, en fait, j'ai fait ce que fait un sociologue, c'est-à-dire on va nouer des conversations plus ou moins spontanées avec tout un ensemble de personnes au sein du tissu commerçant, au sein du tissu associatif. J'avais aussi quelques attaches plus personnelles, on va dire. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, on se met à discuter un peu sérieusement, de manière approfondie avec certaines personnes. Et moi, j'ai travaillé par ce qu'on appelle boule de neige, c'est-à-dire vous demander à des personnes de vous présenter, de vous donner le contact, de proches à eux. Donc soit des personnes qui ont un lien familial, soit un lien amical, soit un lien professionnel ou associatif. Et ça, c'est très important pour comprendre justement le fait que les gens, ils votent en groupe. On vote avec ses proches familiaux, avec ses proches professionnels, avec ses amis. Et c'est cette expérience de groupe que j'essaie de retrouver. Et donc l'enjeu, ce n'est pas la représentativité, mais c'est justement essayer de voir ce qui lie les individus entre eux et comment, du coup, le vote RN peut être normalisé avant tout dans ces sphères-là. La normalisation du RN, ce n'est pas seulement les médias et le champ politique, c'est aussi au quotidien, avec ses proches, que l'option politique lepéniste devient normale, devient possible, devient légitime, voire valorisée.
Parce que ça désinhibe de savoir que le collègue, la grand-mère, le boulanger vote RN.
Ça désinhibe et ça légitime. On se sent d'autant plus fort dans son vote qu'on sait qu'autour de soi, ça vote Marine, comme on me l'a souvent dit. L'argument du nombre aussi revient beaucoup de... Vous savez, ici, beaucoup, parce que les individus regardent les sondages, ils regardent les scores électoraux, et de savoir qu'on n'est pas tout seul, que derrière soi, il y a un grand nombre de personnes qui ont eu le même geste électoral, ça compte beaucoup, me semble-t-il. Parce que le vote, je l'ai dit, il n'est pas seulement individuel, mais en fait, il est collectif. Et il n'est pas seulement secret aussi. Certes, on vote dans le secret de l'isoloir, comme on dit. Mais en fait, le vote, c'est aussi quelque chose dont on parle autour de soi, qui dit quelque chose de son identité sociale. Et moins il y a de sanctions sociales sur ce vote, moins il y a de sanctions symboliques, plus on est légitime à l'exercer.
Et on le sent bien dans les entretiens, il y a de moins en moins de honte associée au vote RN. C'est-à-dire que beaucoup vous disent... Oui, bon, bah oui, je vote RN, mais parce qu'en fait, c'est devenu normal.
Oui, oui, il y a beaucoup de groupes sociaux ou de territoires où, en fait, ce n'est plus du tout une option politique honteuse. Il y a encore tout un ensemble de parts importantes de la société où la honte électorale vaut encore pour cette option politique, où le vote RN reste très profondément illégitime. Il y a tout un ensemble d'autres espaces, d'autres régions de l'espace social où effectivement c'est tout à fait normal, voire c'est l'option électorale la plus valorisée. Et ce qui est honteux, ça va être plutôt le vote de gauche ou le vote anti-Rassemblement national.
Ah oui, le stigmate s'est retourné complètement.
Complètement. Il y a des régions où c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de sanctions sociales à un vote de gauche qu'à un vote Rassemblement national. En sociologie, il y a toute une littérature qui, à mon avis, était très pertinente à un moment, qui analysait le vote RN à partir des instruments de la déviance, la sociologie de la déviance, la sociologie du stigmate. Moi, assez vite, sur mon terrain, je me suis rendu compte que ça n'allait pas pouvoir être mobilisé. On n'est plus du tout dans ce cas de figure où le RN serait un parti stigmatisé et qui se construirait dans la déviance et dans le stigmate. C'est pour ça que je suis assez critique envers l'idée d'un vote anti-système. C'est toujours un peu vrai, mais il faut toujours préciser vraiment de quoi on parle. Et en fait, pour beaucoup, c'est aussi un vote normal, et en tout cas qui s'exprime depuis la norme.
Bah alors, vous parlez de vote anti-système, ça tombe bien. On va regarder un extrait de l'émission C'est ce soir. C'est un journaliste de Marianne qui explique justement que le vote RN est en grande partie un vote anti-élite.
La rhétorique de l'antifascisme sert à se faire plaisir aux gens qui sont déjà convaincus que le RN est un parti détestable, mais elle n'a aucune efficacité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui aujourd'hui vote pour le RN qui va être convaincue par quelqu'un qui lui dirait « Attention, tu es en fait fasciste sans le savoir, et le RN, ce sont les mêmes nazis ou les mêmes pétainistes que dans les années 40 ». C'est une rhétorique qui sert avant tout à se faire plaisir. Et sur cette dimension-là, c'est une dimension extrêmement forte du vote RN. D'ailleurs, les travaux de sociologie récemment parus le montrent. Il y a une dimension de ressentiment vis-à-vis des élites, et pas forcément d'ailleurs vis-à-vis des grandes élites, entre guillemets. C'est-à-dire que les électeurs du RN ont l'impression, et souvent assez juste d'ailleurs, d'être méprisés, d'être considérés comme des beaufs, comme des incultes. Vous savez, on dit souvent que les électeurs du RN sont moins diplômés que les autres. Ce qui est vrai, mais on utilise souvent le terme « ils sont moins éduqués ». Vous vous rendez compte ? Souvent, je vois ça dans la presse. Ils sont moins éduqués que les autres.
Bien sûr.
Vous imaginez la violence symbolique de ce terme-là et, quelque part, le ressentiment que peuvent avoir les électeurs envers les élites politiques, économiques, mais également envers le professeur de l'école du coin qui leur fait des leçons de morale, ou le patron d'une asso d'accueil des migrants. Et ça, c'est quelque chose qui se cristallise, qui devient très puissant, et quelque part, ça renforce au fond l'idée que ces gens-là, on veut les dégager. Je finis sur ça, mais le vote RN, quelque part, c'est un peu le vote de celui qui a envie de voir le journaliste du 20h faire la gueule quand il annonce les résultats.
Alors, la dernière formule est belle, mais est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'il y a, chez les gens chez qui vous avez enquêté, chez qui vous avez passé du temps, cette dimension anti-élite?
Oui. Oui, je ne sais pas si, s'il a lu ou non mon livre, mais à un moment, je dis exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une défiance vis-à-vis des élites, certaines élites, notamment culturelles, médiatiques, politiques, de gauche ou au gouvernement. Il y a aussi une critique de certaines fractions des élites économiques, les ultra-riches, et notamment ceux qui peuvent avoir une richesse trop ostentatoire. Des formules qui reviennent souvent, c'est les personnes qui se gavent, qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent, etc. Ce qui est beaucoup le cas en région PACA, où il y a beaucoup de la classe patrimoniale en fait, qui s'est installée. Et vis-à-vis par contre des élites culturelles, souvent, le terme « élite » en fait est à prendre avec des pincettes, car c'est souvent exactement comme ce qui est dit, l'instituteur du coin, le responsable associatif. Et ce que je remarque, c'est que pour qu'il y ait une critique des élites économiques, il faut qu'il y ait des écarts assez béants, en fait, en termes de classe sociale, en termes matériels. Et par contre, vis-à-vis de ces élites du diplôme, ces petites élites du diplôme, petites élites culturelles, là, on peut avoir des écarts sociaux qui sont minimes. Mais le capital culturel, comme dirait Bourdieu, joue tellement, je pense, sur des ressorts aussi subjectifs que ça peut être ce type d'écart qui sont les plus blessants, les plus humiliants pour les électeurs que j'ai pu rencontrer. Et avec voilà, tout un ensemble de sociotypes qui émergent, un peu de professions qui émergent dans les conversations que j'ai pu avoir, les profs, les enseignants, les journalistes, tout un ensemble d'autres professions. Et les journalistes, effectivement, ça fait partie des professions particulièrement détestées. Les artistes aussi, certains artistes. Toutes ces professions qui sont spécialisées dans l'usage du savoir, des symboles, du symbolique, et qui l'utilisent aussi à des fins de pouvoir, ou en tout cas qui peuvent être perçues comme des formes de domination symbolique.
Et vous parliez des élites, de la détestation des grandes fortunes, grandes fortunes locales ou grandes fortunes nationales ou internationales? Est-ce qu'on met au même niveau Elon Musk, Bernard Arnault et le gros patron de l'entreprise du coin qui gagne 10 fois plus que le voisin?
Alors, sur le patron du coin, souvent, c'est des figures qui sont valorisées. Il y a des formes de réussite économique qui sont très valorisées au sein de cet électorat, qui est souvent un électorat avec un niveau de capital économique supérieur au capital économique, au capital culturel, pardon, relativement. Et donc, il y a aussi des formes de valorisation de la réussite économique pour un électorat qui est souvent à droite, en fait, à droite politiquement, et qui s'est progressivement radicalisé vers l'extrême droite. Et donc, les critiques qui sont faites, c'est pour, encore une fois, vraiment ces ultra-riches. La question internationale, elle intervient assez peu. Et moi, ce qui m'intéressait sur mon terrain, c'est vraiment justement pas penser que c'est uniquement les Parisiens ou Elon Musk, mais ça va être lorsqu'on se promène dans le littoral méditerranéen ou l'arrière-pays provençal, les belles demeures, les très belles voitures et toute cette richesse parfois vécue comme trop ostentatoire. Et avec la figure du rentier aussi, la personne qui loue en Airbnb, qui peut être assez critiquée, ou la personne qui a une maison secondaire mais qui n'y va que pour le réveillon. Donc toutes ces formes de richesse non productive, on pourrait dire, peut être critiquée.
Alors, je voudrais qu'on en vienne au sujet, j'allais dire, central de votre étude, c'est la question du racisme. Est-ce qu'elle est centrale dans le vote RN? Et je voudrais qu'on écoute ce qui s'en dit sur les plateaux et cette opposition entre vote idéologique et vote, j'allais dire, sociologique.
Je dirais que le RN a réussi à capter le vote, pas seulement de la colère, mais le vote de ce sentiment de vulnérabilité qu'on voit dans les enquêtes. Vulnérabilité par rapport au déclassement, la peur du déclassement, c'est évidemment la thématique du pouvoir d'achat. Deuxièmement, la peur migratoire, la peur sécuritaire, vous avez raison, on voit beaucoup dans les enquêtes, j'ai été frappé par ça ces derniers jours, le mot de chaos. On a peur d'un pays qui connaîtrait le chaos. Et puis aussi la peur, de, pour certains, le fait que le dérèglement climatique pousse trop loin la transition écologique.
D'une certaine façon, je me suis posé la question en voyant le score hier, effectivement massif, avec une participation colossale, donc ce n'est pas une vague, c'est carrément un tsunami, de savoir si ce n'était pas une sorte de revanche des Gilets jaunes et d'une France, des campagnes, des territoires, comme vous l'avez dit, qui se cabraient contre le pouvoir central, contre des élites.
Les électeurs RN ne sont plus les gens les plus pauvres, mais ceux qui ont peur de le devenir. C'est ce qu'explique le politologue Antoine Jardin dans Le Point. L'angoisse du déclassement, le pouvoir d'achat comme préoccupation numéro un, centrale, dit-il, pour comprendre ce qui est en train de se passer.
C'est évidemment qu'il y a toujours un racisme résiduel à la base. Maintenant, moi, je suis amené à les suivre, à les voir. J'ai pas l'impression que le racisme, ce soit un élément central de leur discours. Quand on va les voir, ce sont des électeurs qui sont, pour la plupart du temps, je parle de l'électorat historique, enfantiste. C'est un électorat qui est populaire, qui est déclassé, qui subit de plein fouet ce déclassement industriel, économique, civilisationnel, et qui finalement se retrouve dans des zones rurales qu'on a un peu abandonnées, avec des élites qui les méprisent.
Le procès en fascisme instruit par Dominique Strauss-Kahn est quand même particulièrement indécent. Enfin, aujourd'hui, l'électeur moyen du RN, c'est certainement pas un fasciste qui est nostalgique du bruit des bottes. C'est quelqu'un qui en a marre de baisser les yeux quand il marche dans la rue le soir et qui en a marre de les lever au ciel à la fin du mois quand il découvre le loyer et la facture d'électricité. Et ces procès moraux, ils sont totalement contre-productifs.
Alors, je vous voyais noter sur votre feuille le mot fascisme. Je voudrais qu'on s'arrête juste sur cette notion parce qu'on l'a entendu tout à l'heure sur le plateau de ce soir aussi, on l'entend là. Et je voudrais qu'on affiche aussi un article du Figaro qui est sorti ce matin, une tribune de Pascal Perrineau et Aquilino Morel. Pascal Perrineau qui est politologue et qui dit ceci: tout le monde connaît, pour ceux qui refusent de vivre dans l'entre-soi, des électeurs du RN dans son cercle d'amis ou de voisins, et personne ne les considère comme fascistes. Et à la première lecture, je me suis dit, mais cet argument est complètement anesthésiant, puisque du coup, en effet, on se doute bien que tous les électeurs RN ne sont pas des fascistes purs et durs qui rêvent de voir le maréchal Pétain reprendre le pouvoir en France. Et du coup, ça tue un peu le débat. Est-ce que la notion de fascisme, elle est opérante dans ce débat? Vous avez des enquêtés qui vous disent « oui, je suis fasciste ». Non, mais ça pourrait.
Non, personne ne se dit ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que la figure du fasciste ou par exemple du nazi ou du skinhead, elle est utilisée par les électeurs et les électrices que j'ai pu rencontrer pour justement mettre à distance ce que c'est que l'extrême droite. Dire bah oui, il y a des skinheads, mais en fait ce sont eux, l'extrême droite. Et ça permet soi-même de se retirer, pas vraiment de l'accusation de fascisme qui en fait est très peu présente dans les discours, mais de l'accusation de racisme. Et c'est... Il faut peut-être un peu choisir ces mots, en tout cas les mots qu'on a envie de rediffuser dans l'espace public. Moi, c'était le terme de racisme, qui était un peu l'éléphant dans la pièce, comme le veut l'expression, et qui moi, me semblait important de remettre dans le débat public, moins pour des raisons politiques que pour des raisons de description de ce dont on parle, lorsqu'on parle du vote RN. Où, effectivement, on a parfois l'impression, je regarde un peu... quelquefois les émissions sur le vote RN, sur les électeurs du RN. Parfois, j'ai l'impression que c'est un jeu de ni oui ni non, ni xénophobie, ni islamophobie, où on va parler de tout, du ressentiment anti-élite, du déclassement, du pouvoir d'achat, qui sont à chaque fois vraies, en fait. C'est des questions qui comptent, et on ne peut pas comprendre le vote RN si on ne prend pas en compte, notamment des conflits de classe, des inégalités de classe qui sont subies par ces électeurs, ces électrices. Mais on va parler de tout, sauf de la question raciale, de la question du racisme. Et il me semble que c'est un problème pour vraiment, encore une fois, comprendre de quoi on parle. Et ce verbe, même comprendre, il est intéressant, parce qu'il y a toute une injonction à comprendre les électeurs du RN. Et moi, je fais de la sociologie qu'on appelle justement en France compréhensive, donc ça m'a tout à fait de comprendre, c'est même mon travail, d'essayer de montrer comment ils pensent, quelles sont leurs visions du monde, et donner à voir et à lire cela. Mais comprendre, souvent, ça sonne comme une manière de ne pas parler de cette question du racisme. Racisme qui est considéré comme une catégorie essentiellement morale et non comme une catégorie analytique. Or, il y a une sociologie du racisme que j'essaie de mobiliser dans mon livre. Donc moi, j'ai justement essayé de les comprendre, mais comprendre, ça veut dire aussi comprendre le racisme, et ça veut dire aussi, du coup, le nommer et l'expliquer comme tel.
Parce que là, on a l'impression que c'est même pas seulement écarter l'argument, c'est dire arrêtons d'en parler parce qu'en fait, ça empire la situation. C'est un argument qu'on entend beaucoup, c'est de dire, en fait, vous les rattraperez jamais si vous les accusez d'être racistes.
Ouais. Alors, le premier point, c'est moi, mon métier, j'allais dire, de mon point de vue, ce n'est pas un problème, ce n'est pas le problème principal de se demander qu'est-ce qui va être efficace ou non. Moi, je pense qu'une des vocations des sciences sociales, c'est d'être lucide, en fait, c'est faire œuvre de lucidité sur la situation, par exemple, sociale et politique qui est la nôtre, et ensuite les individus utilisent les résultats des sciences sociales comme ils le souhaitent. Et par ailleurs, cette question de est-ce qu'il faut arrêter de stigmatiser le racisme, en gros, est-ce qu'il faut arrêter d'en parler, je pense que c'est compliqué. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on a fait depuis 20 ans de toujours insister sur le fascisme et sur le racisme du Rassemblement national et aussi de ce qui traverse aussi son électorat. Est-ce qu'on a continué à en parler ou est-ce qu'on n'a pas plutôt fait l'inverse en parlant d'autres choses et en justement en euphémisant cette question qui est la question raciale. Et moi, il me semble en fait de plus en plus, et même plus on a l'impression que l'extrême droite monte, moins on en parle. Parce que il y a un sociologue, Charles White Mills, qui parle d'ignorance, il parle d'ignorance blanche, et ce qu'il désigne derrière, c'est le travail de déni de l'existence du racisme dans la société française. Et en fait, le racisme, en France par exemple, mais dans d'autres, là en l'occurrence, Charles White Mills, c'était la société états-unienne, et il pointait le processus qui consiste à travailler, à ignorer sciemment cette question. Et il y a plusieurs processus. Il y a premièrement l'idée de le racisme, c'est un ailleurs. Donc c'est aux États-Unis, par exemple, pour la situation française, ou c'est dans les pays dits du Sud, mais pas en France. C'est un passé. C'est-à-dire que oui, la France a pu être raciste, mais ce n'est plus le cas actuellement. Et c'est aussi, il y a le vocabulaire du résiduel, qui revient beaucoup. Le racisme est encore présent, mais c'est résiduel et c'est exceptionnel. Et ça ne peut pas être central. Et donc là, en l'occurrence, plus le RN monte, plus beaucoup vont avoir tendance à dire bah, « du coup, ce n'est plus du racisme, car cela paraît inconcevable qu'il y ait autant de racisme, en quelque sorte, dans la société française.
Ah, » C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un parti raciste obtienne autant de voix. Donc, c'est qu'il n'est pas raciste.
C'est ça. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais enfin, monsieur, 34% de racistes en France. Alors qu'en plus, c'est un collègue, Florent Gougou, qui a cette expression que j'aime bien, qui dit que le refus de l'immigration, si c'était le refus de l'immigration uniquement qui amenait au vote RN, parce que c'est une condition nécessaire mais non suffisante, si le refus de l'immigration amenait au vote RN, le Rassemblement national serait au pouvoir depuis longtemps, en réalité. Il y a un problème avec le racisme et un problème avec les minorités ethno-raciales en France de façon centrale. Et c'est quelque chose que j'essaie aussi de rappeler dans le livre, c'est que le racisme, il y a plusieurs formes d'expression du racisme, et donc l'extrême droite n'en a en aucune manière le monopole. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui se passe là, c'est qu'il y a une politisation de cette question, en l'occurrence plutôt au profit du Rassemblement national, mais ça ne doit pas amener à ne pas parler justement de cette dimension, mais au contraire à l'affronter et à la regarder en face.
Alors, il y a cette phrase dans votre livre, vous parlez notamment de ces habitants de certains quartiers qui voient leurs voisins plus riches qu'eux, qui voient les prix augmenter, qui ont de plus en plus de mal à se loger, et vous parlez à la fois en même temps de la motivation raciste, islamophobe, et on va revenir tout à l'heure sur l'islamophobie, mais de ce vote, et vous dites les deux réalités ne sont pas exclusives, elles fonctionnent ensemble si le développement d'une économie résidentielle engendre en effet une pression immobilière à la hausse, et par là un appauvrissement relatif de certains habitants, la menace du déclassement est justement d'autant plus forte que les immigrés, vous y mettez des guillemets, sont constitués en groupes repoussoirs desquels l'éloignement doit être absolument garanti. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris la phrase, pauvre d'accord, mais pas avec eux.
Absolument. C'est un autre sociologue, un des pères fondateurs de la sociologie, W.E.B. Du Bois, qui parlait de salaire public et psychologique. Et il désignait par là ce qu'il appelait le salaire du blanc. Et c'est l'idée qu'on peut être en déclassement, on peut être menacé par l'appauvrissement, mais le fait de garantir une frontière minimale avec, en l'occurrence, les minorités ethno-raciales, ça devient très important. Ça devient très important pour les personnes avec qui j'ai discuté de ne pas être assimilées aux inassimilables. Et c'est des personnes qui vont se retrouver, du coup, classées par leur classement, comme dirait Bourdieu, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois critiquer et participer à la stigmatisation des minorités ethno-raciales et des endroits où ils habitent dans l'espace local, mais en même temps, lorsqu'ils ont l'impression que les quartiers les rattrapent, cela va être vécu très difficilement. Et donc, il y a tout un enjeu de distinction sociale qui est racialisé, qui est très important. Et justement, le vote RN, ça va se jouer dans cette peur d'une réduction de l'écart social avec les minorités ethno-raciales. Et donc, ils vont être d'autant plus incités à voter pour des partis qui promettent de durcir encore davantage les frontières raciales, pour être vraiment sûr qu'on ne passera pas de l'autre côté.
Et vous dites l'importance des signes, ce qu'ils jugent des signes visibles d'immigration, c'est-à-dire les draps accrochés aux fenêtres, enfin, ça se fixe sur des exemples comme ça, des draps accrochés aux fenêtres, des boucheries halal, des commerces qui vendent plus d'alcool, ce genre de choses, ça devient presque central. Il y a une de vos enquêtées qui passe sa journée quasiment à compter dans son quartier ce qu'elle appelle ces signes visibles de...
Oui, pour certains, cette fixation raciste sur certains éléments, sur certaines manifestations du minoritaire, ça active cette peur justement de ne plus être majoritaire, qui je pense est un affect très puissant et qui est un moteur de l'extrême droite en général, et plus particulièrement de cet électorat pour le Rassemblement National. Et effectivement, la question du voisinage, la question de ne plus se sentir chez soi, justement, dans un monde qui nous était familier d'un point de vue racial. Et de voir, encore une fois, c'est la phrase que j'ai la plus entendue sur mon terrain, c'est pas normal. Ça, c'est très important de montrer que c'est un vote qui s'exprime depuis la norme, mais une norme racialisée, qui est vécue comme menacée. Et c'est le vote RN s'appuie justement là-dessus, sur cette volonté de défendre la norme pour y rester.
Et alors, il y a une contradiction qui est intéressante aussi, c'est il y a tout un chapitre sur l'islamophobie, où vous décrivez des électeurs qui sont, on pourrait dire, catholiques de culture, mais qui en fait ne sont pas spécialement pratiquants, pas spécialement attachés aux rites, à part les grands rites, Noël, Pâques, le baptême des enfants. Et vous dites, c'est pas depuis un dogme religieux catholique que les musulmans sont rejetés, point de guerre de religion stricto sensu ici. L'islamophobie est mise en œuvre non seulement par des croyants, mais aussi par des personnes athées convaincues. Les manifestations patrimoniales du catholicisme sont en revanche admises, voire valorisées, crèche de Noël dans l'espace public par exemple, considérée comme festive et traditionnelle, et permettant de réaffirmer un peu de l'identité française. C'est aussi ça, cette norme, c'est cette norme catholique, blanche, française. Ouais.
Le catholicisme a le luxe d'être en France considéré comme une tradition, ce qui n'est pas le cas de l'islam, qui va toujours être vécu comme une apparition étrangère, en quelque sorte, et moins traditionnelle française qu'une autre, alors que c'est quand même la deuxième religion de France, et ça date, en quelque sorte. Donc ça pourrait être patrimonialisé, justement. Mais effectivement, la plupart des électeurs, ça on le voit aussi au niveau de l'électorat général, ce sont les électeurs du RN sont des catholiques non pratiquants. Quand vous êtes catholique pratiquant, jusqu'à une période récente, vous ne votez pas pour le Rassemblement National. Et donc, ils vont s'attacher voilà, au catholicisme comme culture française, souvent comme aussi culture blanche, d'une certaine façon, et qui va être mise en contraste avec les manifestations jugées trop visibles, non normales, de l'islam. Ce qui est d'autant plus important en région PACA, où vous avez une économie touristique très importante. Et si vous voulez, vous pouvez mettre en tourisme plus facilement une église qu'une mosquée, encore actuellement. Parce que justement, il n'y a pas cette patrimonialisation de l'islam actuellement. Et donc, ça a des conséquences aussi économiques. Ça, j'insiste beaucoup sur ce fait que le racisme, ça rime aussi à des raisonnements économiques et à des intérêts économiques, et y compris des formes aussi culturelles, identitaires, que l'islamophobie. Même d'un point de vue individuel, il y a beaucoup de personnes qui me disent, le fait par exemple de voir des mères portant le foulard dans certains quartiers, ça va être un signal négatif envoyé par rapport à ce territoire et donc sa valeur, la valeur symbolique et sociale du territoire, mais aussi sa valeur foncière, immobilière. Et donc, c'est perçu comme un signal négatif de la baisse du prix de l'immobilier dans un territoire dans lequel on habite. Et donc, on ne va pas pouvoir revendre, on va y perdre des plumes, comme on me le dit. Donc, même voilà, cette question du voile, par exemple, il y a évidemment du ressentiment culturel dans sa critique, mais ça touche aussi à des raisonnements purement économiques et patrimoniaux.
Et à propos de cette supposée perte de valeur immobilière des quartiers, ils mobilisent même le vocabulaire de la guerre, parce que ceux qui s'en vont sont vus comme des déserteurs. C'est-à-dire, ils abandonnent le combat, quoi.
Oui, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, ce récit du ce qu'aux États-Unis on appelle le white flight, c'est-à-dire les ménages blancs qui quittent les banlieues ou les centres-villes, où il y a un nombre jugé trop important de minorités ethno-raciales, en tout cas dans leurs manifestations visibles. Et avec le ressentiment que cela crée. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, qui est que on parle souvent de l'entre-soi blanc des électeurs du RN. En fait, c'est un entre-soi blanc qui est incomplet et raté, et manqué, et démuni pour ses électeurs. C'est justement, ils n'arrivent pas à quitter ce quartier, ou en tout cas à s'en sentir suffisamment éloignés. À l'inverse, d'autres groupes davantage dotés économiquement, qui eux vont participer pleinement à la ségrégation territoriale à l'œuvre en France. Donc encore une fois, là, c'est que les manifestations, j'allais dire discursives du racisme, que moi je peux récolter dans mon enquête, elles ne prennent sens que comprises dans des processus de racialisation matérielle qui sont bien plus larges. Et auxquelles toutes les personnes pour qui le critère racial entre en jeu dans les stratégies de résidence, de où est-ce qu'on va acheter sa maison, où est-ce qu'on veut vivre, quel quartier on va éviter, et bien ça, c'est un processus collectif auquel beaucoup participent en France, et pas du tout uniquement les électeurs du RN. Et souvent, en fait, leur discours raciste va être d'autant plus manifeste et explicite et dur dans les mots qu'il va être impuissant en acte. Donc là aussi, c'est la question de la définition du racisme. Est-ce que c'est juste une attitude, une opinion, un discours, ou est-ce que c'est aussi une relation de pouvoir qui se pratique, y compris dans des actes matériels ?
J'allais vous demander, est-ce qu'ils ne partent pas uniquement parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir, ou est-ce que certains restent parce que c'est vécu comme un acte de résistance, un acte politique de rester
Absolument pas. En tout cas, moi, les personnes que j'ai pu côtoyer, c'est souvent des personnes qui regrettent de ne pas pouvoir partir et qui prévoient de le faire. Effectivement, il peut y avoir un registre guerrier qui est parfois évoqué, mais pas sur ce plan-là, en tout cas.
Alors, puisqu'on parle d'islamophobie, on va écouter un extrait d'un débat que vous avez eu sur France Culture avec le journaliste du Figaro Vox, Alexandre Devecchio, cette opposition entre travail de terrain et travail d'éditorialiste, on va dire.
Quel est le déterminisme du racisme dans le vote RN ? Et je vais vous laisser évidemment problématiser le mot racisme.
En fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travaux de sciences sociales qui portaient sur le vote RN, qui insistaient beaucoup, et à raison, sur les expériences de classe, et notamment, je l'ai dit, des expériences d'inégalité subies. Mais parfois, il m'avait semblé que cette dimension de classe pouvait être mise en avant au détriment d'autres dimensions, et avec une euphémisation, voire une évacuation, de ce qui continue à structurer très fortement le vote RN, c'est-à-dire voilà, des sentiments islamophobes et xénophobes, et qu'on peut qualifier de vision du monde raciste.
Islamophobie, c'est un terme qui est très discuté. Félicien Faury, est-ce qu'il y a une incompatibilité entre un discours très dur contre une religion et une attitude beaucoup plus ouverte vis-à-vis des fidèles de cette religion ?
C'est un terme qui est discuté, oui et non. En fait, il est discuté dans l'espace public, dans l'espace politique. En réalité, bon, moi, je suis chercheur, hein, et en fait, dans l'espace scientifique dans lequel je travaille, au niveau national, mais aussi international, en fait, le terme d'islamophobie est un terme maintenant qui n'est pas parfait, hein, mais qui est employé de manière assez commune pour désigner le racisme anti-musulman.
J'aimerais votre réaction par rapport à ça, Alexandre Devecchio.
Eh bien, ça dépend de ce qu'on appelle déjà l'islamophobie et le racisme. Le terme d'islamophobie est quand même extrêmement controversé. S'il n'a pas été forgé, il a été popularisé par l'ayatollah Khomeini pour interdire toute critique de l'islam, par exemple. Ensuite, le terme de racisme, à mon avis, renvoie à la hiérarchisation des races, à l'idée que parce qu'on serait maghrébin, par exemple, on serait inférieur ou on serait une mauvaise personne par essence. Je ne crois pas que c'est, en tout cas, chez la majorité des électeurs RN, ce soit
soit le sentiment.
Alors, chez la majorité de vos entretiens, si, quand même. Et je reviens aussi sur la notion de racisme. Dans votre livre, c'est un grand... Pas votre livre, hein, mais les réponses qu'on vous fait, c'est un grand fourre-tout. C'est-à-dire que les Turcs, les Maghrébins, les Arabes, les musulmans, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction en fonction de la religion, même si l'islam concentre beaucoup de critiques. Mais en tout cas, que vous soyez musulman ou pas, peu importe.
Oui, ou en tout cas, quand vous êtes identifié comme arabe, par exemple, vous êtes considéré la plupart du temps comme musulman par défaut. Mais c'est vrai que cet extrait, cette émission sur France Culture, très honnêtement, je pense que je n'ai pas tout à fait totalement compris pourquoi ce dispositif avait été mis en place avec ce type de dialogue. Pour moi, c'est très important et souhaitable qu'il y ait des débats politiques sur cette question, politique au sens de quelque chose de conflictuel, d'agonistique, avec des oppositions en termes de valeurs. Mais ce n'est pas mon domaine de compétence, au sens aussi où je n'en ai pas les compétences, je pense, de participer à ce type de registre. Et moi, mon registre, c'est celui de la recherche. Effectivement, il y a des controverses scientifiques aussi autour de ce que je développe sur la place du racisme dans le vote RN. Il y a des chercheurs que je discute dans mon ouvrage. Et là, par conséquent, je pense que c'était à la fois décevant pour les personnes qui pouvaient s'attendre à un débat politique sur cette question, qui est nécessaire, mais aussi pour les personnes qui pouvaient s'attendre à un débat entre chercheurs sur cette question. Et donc, je pense que c'était des registres qui étaient très différents et au fond trop différents. Moi, quand je viens pour parler de mon livre, je veux approfondir certaines questions, certains résultats. Et là, parfois, j'avais le sentiment de devoir repartir à zéro, de devoir réexpliquer ce qu'on appelle racisme, en fait, dans les sciences sociales, qui n'est absolument pas réductible à l'idée d'une hiérarchisation biologique entre les races.
J'allais vous demander, parce que sur l'islamophobie, on se souvient tous que ça fait 10 ans qu'on débat de ce terme, même si maintenant il est quand même rentré dans le langage courant. Ça vous inquiète que même maintenant, le terme de racisme devienne un sujet de débat et de controverse ?
Ça a été toujours le cas, en fait. C'est que ça va avec la controverse, dite controverse, en fait, sur l'islamophobie. Parce que le terme d'islamophobie, qui est utilisé, en fait, comme synonyme de racisme anti-musulman, pour essayer de voir est-ce qu'il y a des spécificités ou non d'un racisme anti-musulman, c'est quelque chose qui n'est plus du tout controversé au sein des sciences sociales, comme je le dis, au niveau national ou international. Donc c'est une controverse qui est limitée au champ politique, et même en fait à une partie, la partie de droite en fait du champ politique, en tout cas me semble-t-il. Et donc il y a des, même je crois que je l'écris dans le livre, qui est que souvent avec le terme d'islamophobie qui peut être contesté dans l'espace public, spécifiquement en France, il y a des chercheurs qui ont parlé même d'une spécificité française dans cette contestation du terme d'islamophobie, mais parfois on passe plus de temps à discuter du mot que d'affronter la chose. Et d'affronter la chose, mais même juste de la documenter, de documenter le fait que beaucoup de personnes musulmanes en France sont victimes de discrimination, de préjugés. Et je pense qu'il faudrait passer la seconde, il faudrait arrêter de uniquement discuter, passer 20 minutes à discuter du mot et à essayer de le justifier pour pouvoir documenter les différentes formes que peut prendre l'islamophobie en France.
Et sur le racisme, sur cette question de la hiérarchisation des races, on en revient un peu au fascisme de tout à l'heure, c'est-à-dire que, en effet, personne dans vos réponses ne vous dit « oui, il y a des races inégales ». Ce n'est pas du tout ça, les ressorts qui sont mobilisés.
Oui, même si, au fond, parfois, la nature, le corps, le physique n'est jamais loin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des glissements vers des formes plus naturalisantes, au sens strict, biologisantes du racisme. Mais effectivement, mais il y a la même chose avec le terme d'extrême droite. C'est-à-dire le fait de réduire l'extrême droite au régime fasciste historique, on retrouve à peu près le même processus avec le racisme, qui est de le réduire à la simple hiérarchie biologique entre les races, qui même historiquement en fait n'est qu'une modalité parmi d'autres d'expression du racisme. Et donc je pense que derrière ça, il y a la volonté de nier à quel point cela joue de façon centrale dans le vote pour le RN. Mais avec, encore une fois, je pense, un travail d'ignorance. J'avais noté un peu quelques chiffres là, qui viennent de tomber de la CNCDH à propos des électeurs du RN. C'est cette année. 91% estiment qu'ils ne se sentent plus chez eux, contre 51% dans la population générale. 83% estiment que les immigrés sont le principal facteur d'insécurité. 93% qu'ils viennent en France uniquement pour profiter des aides sociales. 93% contre 60% pour la population générale. 94% qu'il y a trop d'immigrés en France, etc., etc. Ça, c'est des chiffres qui, je pense, sont connus, en fait, en tout cas sont très aisément disponibles. Il y a Nona Mayer qui fait un travail de vulgarisation et de médiatisation de ces chiffres-là. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas, ou en tout cas, à mon sens, très peu. Sachant que le terme d'immigré ou d'immigration, il faut bien s'entendre sur ce dont on parle. Moi, comme vous l'avez évoqué, le terme d'immigré et d'étranger, je le mets toujours entre guillemets dans mon livre. Ça a été une négociation un peu avec le seuil aussi, parce que ça pouvait être compliqué. Mais moi, j'insistais beaucoup sur ce fait que ce qu'on appelle immigré et étranger sur mon terrain, et c'est pas que sur mon terrain, ça désigne jamais uniquement les immigrés et les étrangers au sens strict, juridique, citoyen. Ce qu'on appelle immigré, ce sont les minorités ethno-raciales dans leur ensemble. Et donc quand 93% des électeurs du RN disent que les immigrés viennent en France uniquement pour les aides sociales, on ne parle pas uniquement des immigrés au sens strict. On parle des personnes qui n'en finissent pas d'être issues de l'immigration, comme on dit, et donc des minorités racialisées en France.
Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a le bon immigré ?
Ah, absolument.
Est-ce qu'il y a celui qui réussit, qui ne pose pas de problème, qui est calme, silencieux,
absolument.
Discret ?
C'est un sociologue, Abdelmalek Sayad, qui parlait de ça, qui montrait que l'envers du racisme, plutôt un des rouages du bon fonctionnement du racisme, c'est cette figure de l'exception vertueuse, du bon immigré, qui justement est poli, la question de la politesse, qui revient beaucoup, qui est une forme de gratitude en fait. Parce que l'intégration à la société française est vécue pour beaucoup comme une faveur qu'on nous croirait aux immigrés. Donc le bon immigré qui est poli, qui est docile et qui aussi ne se politise pas, ne cherche pas en fait à s'émanciper, reste à sa place d'une certaine manière. Et ça, ça revient beaucoup, avec notamment le bon musulman qui souvent est en fait un musulman invisible, voire un musulman non pratiquant. Donc voilà, le bon musulman, c'est aussi parfois un musulman inexistant en fait. Et ça, c'est vraiment souvent mis en avant pour montrer en quelque sorte que ce serait possible et que donc les immigrés qui sont en fait français la plupart du temps, qui ne se conforment pas à cette position-là, à cette attitude-là du bon immigré, c'est de la mauvaise volonté, assimilationniste. Donc c'est des personnes qui ne veulent pas, au fond, s'intégrer. Et c'est ça un peu qu'il y a beaucoup avec l'islamophobie, c'est que c'est à la fois quelque chose qui fonctionne par déterminisme culturel très fort, c'est-à-dire qu'on est musulman et on va le rester, en quelque sorte. Donc là, il y a du racisme qui fonctionne. Mais c'est aussi quelque chose qui est vécu comme une liberté, mais une liberté dangereuse et négative. Ils ne veulent pas s'intégrer, ils veulent continuer à pratiquer de manière trop visible. Il y a beaucoup de phrases, ils le font exprès, on dirait qu'ils le font exprès. Ils l'affichent, ils imposent leur religion dans les cantines, dans l'espace public, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très présent, un peu cette contradiction, mais qui est en fait une contradiction fonctionnelle, je pense, entre d'un côté un déterminisme culturel et de l'autre côté une liberté négative et dangereuse. Qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans l'antisémitisme.
J'allais venir à l'antisémitisme parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup finalement dans votre, ouais. dans votre livre des Juifs.
Absolument.
On a l'impression que la question a quasiment disparu de leur discours.
Ouais, c'est quelque chose qui a été très peu présent dans mon enquête. Je pense qu'il y a deux choses. C'est soit un résultat, c'est-à-dire soit c'est quelque chose qui n'apparaît pas, qui n'est pas présent, en tout cas de manière explicite et conscientisée dans les discours. Soit, et c'est quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur, pour pas, en fait, nier l'existence d'un antisémitisme à l'extrême droite, c'est peut-être aussi un biais de mon enquête. Dans les questions que l'on pose, dans la manière dont on amène certaines interrogations, peut-être que la manière dont j'ai mené l'enquête n'amenait pas à que certains stéréotypes antisémites, par exemple, puissent s'exprimer.
Ouais. Et est-ce que c'est peut-être aussi là où réside la dernière grande honte. C'est-à-dire, on sait que l'antisémitisme, c'est automatiquement associé au nazisme, et donc ça, c'est... on sait que c'est disqualifiant instantanément.
Absolument. Je pense que ça a effectivement aussi beaucoup joué. Moi, les exemples pour se distinguer justement du caractère extrémiste du vote RN ou du racisme. Les exemples qui sont donnés, c'est encore une fois les skinheads, les nazis, la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus qui effectivement, je pense, des traces scolaires derrière ça, de extrême droite égale antisémitisme, qui sont toujours présentes.
Alors, je voudrais qu'on voit quelques extraits d'interviews de candidats du RN, justement sur cette question du racisme.
Quand vous entendez que le Rassemblement national est un parti xénophobe, raciste, fasciste...
C'est faux, et archi-faux. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman.
Et c'est pour ça que ça me fait un peu sourire lorsque on me traite de facho. Pas plus tard que dimanche, je suis allé à un rassemblement de motards au Ménébré. Et il y a une bénédiction des motards et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je ne l'ai pas écrasé ma moto.
Heureusement.
Laurent Gnedich, une petite question pour vous. Est-ce que Jean-Marie Le Pen est une personnalité qui vous inspire ?
C'est une personnalité qui m'a inspiré dans ma jeunesse, bien sûr.
Ah, le détail de l'histoire, ça vous a inspiré ?
Non, pas du tout.
Se moquer comme ça de la mort de millions de personnes, pas... militantes, féministes, tout ça, ça vous inspire ?
Une grave erreur de communication et surtout de compréhension du camp adverse.
C'était pas du tout une remarque.
Je ne pense pas que c'était une remarque antisémite, madame. C'était un très mauvais choix de mots. Le mot détail était inadmissible dans le choix de mots.
C'était un très mauvais choix de mots.
Pardon ? La justice a tranché sur ce point-là. Et donc vous dites que ça n'est pas antisémite ce qu'il a dit là ?
Moi, j'ai encore des doutes actuellement.
Il existe au RN une commission des conflits, celle qui a par exemple demandé à Ludivine Daoudi, candidate à Caen, qui posait en ligne avec une casquette nazie, de se retirer après que ça ait fait le tour des réseaux. Et bien c'est fait. Mais des dizaines d'autres polémiques circulent en ligne. Il y a des photos par exemple de la suppléante de Pierre Gentillet arrivée en tête dans le Cher avec 43% des voix. Vous la voyez là, elle pose aux côtés de skinhead néo-nazi avec ce t-shirt Fierté Blanche Mondiale.
Sur ces candidats, c'est habituel maintenant à chaque élection, que ce soit législative, européenne moins, mais principalement législative, on a toujours au moins une centaine de candidats dont des photos, des propos ressortent. Est-ce que d'abord ça joue ou est-ce que non? Et parce que tout à l'heure, on entendait un extrait d'un candidat qui parlait de Jean-Marie Le Pen. Dans votre livre, il est disqualifié quasiment à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord pour dire oui, Jean-Marie Le Pen, c'était violent, c'était brutal, c'était trop, c'était Donald Trump, il est comparé à Donald Trump. Alors que Marine Le Pen, voilà quelqu'un de présentable. Est-ce que ça, c'est une entaille dans la réflexion ou est-ce qu'au final, ça joue pas, quoi ?
Alors, premièrement, c'est Jean-Marie Le Pen n'est pas tout le temps disqualifié parce que certaines personnes que j'ai rencontrées qui sont des votants en fait anciens, réguliers, et donc qui ont pu voter pour Jean-Marie Le Pen. Mais c'est vrai que notamment quand j'interroge des primo-votants RN en 2022, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Le fait que Marine Le Pen, enfin on voit à quel point Marine Le Pen bénéficie d'une aura de normalisation et d'apaisement aussi, par rapport à Jean-Marie Le Pen, qui effectivement est comparé à Donald Trump, avec souvent ce registre de la folie, du désordre qui émerge beaucoup. Est-ce que ça compte ? Tout dépend de quoi on parle. De fait, comme vous l'avez dit, à chaque élection municipale, législative, depuis très longtemps, il y a ces profils qui émergent à chaque fois, il y a ces reportages, ce travail journalistique absolument nécessaire par ailleurs, qui montre tous ces éléments. On ne peut que constater que ça n'a pas empêché le RN de progresser en nombre de voix et en pourcentage. Donc je ne suis pas sûr que ça peut empêcher beaucoup d'électeurs du Rassemblement national, s'ils sont exposés en plus à ces reportages, ce qui n'est pas du tout sûr et certain. Donc je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment les dissuader de voter pour ce parti. Par contre, ça peut avoir une importance. Là, par exemple, pour les législatives, pour les électeurs de droite et de centre-droit, qui vont avoir une responsabilité un peu historique au second tour dans leur vote, soit d'abstention, soit pour la gauche, soit pour le Rassemblement national. sachant que dans le contexte actuel, s'abstenir, c'est favoriser le Rassemblement national et son arrivée à l'Assemblée et peut-être au pouvoir. Donc pour ces segments-là de l'électorat, qui peuvent être sensibles à des enjeux de respectabilité politique et de compétences aussi, parce qu'il y a beaucoup ce registre-là aussi qui est évoqué à propos de ces militants, avec la compétence de savoir bien dire aussi ses idées d'extrême droite, qui est un enjeu important. Donc là, je pense que cette forme d'amateurisme et d'antisémitisme, et je crois que l'expression a été beaucoup utilisée, ce calendrier de l'Avent un peu cauchemardesque, peut-être que ça peut dissuader tout un ensemble d'électeurs centristes ou de droite de voter pour ce parti politique.
On n'a pas beaucoup parlé des médias depuis le début, parce qu'en même temps, ils ne sont pas tellement présents dans votre livre. Ils ne sont pas tellement évoqués. Je voudrais juste qu'on voit un article de France Bleu qui a beaucoup circulé ces derniers temps sur ces fameux candidats invisibles du RN qui ne prennent même plus la peine de faire campagne, de participer à des débats, d'aller sur les marchés tractés, qui en fait n'en ont pas besoin, puisqu'ils arrivent quasiment tous, je crois, en tête et largement en tête au premier tour dans leur circonscription. Est-ce que ça veut dire que finalement l'étiquette suffit ? C'est-à-dire que. Et d'ailleurs, certains n'avaient même pas leur visage sur les affiches, beaucoup. C'était soit Marine Le Pen, soit Jordan Bardella, soit les deux. On vote sur une étiquette, mais ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir de voir les choses changer localement, puisqu'un député, normalement, on a plutôt envie qu'il s'investisse au local, qu'il travaille sur des problématiques un peu précises, telle entreprise qui va fermer, tel sujet.
Ça, c'est. C'est une vraie question. Je pense que l'aspect local, il joue beaucoup encore pour les élections municipales. Pour les législatives, c'est peut-être moins le cas. Et en tout cas, ces élections législatives-là, ce qu'on observe, c'est une très profonde nationalisation des enjeux. Et donc, mais en fait, on le retrouve aussi pour beaucoup d'élections locales de ces dernières années, s'agissant du vote RN, beaucoup d'électeurs, en fait, votent pour, effectivement, l'étiquette ou, en tout cas, les représentants les plus visibles. Et en fait, en nombre très réduit, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Moi, il y a beaucoup d'électeurs, d'électrices qui, en fait, ne me parlent que de Marine Le Pen et souvent ne connaissent que cette figure-là et qui vont voter pour le parti de Marine, y compris aux élections locales. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent et qui est un peu démontré par l'absurde avec ces candidats inexistants, mais qui font quand même des pourcentages très impressionnants parce qu'en fait, les personnes ne votent pas pour ces candidats locaux, mais en fait, votent pour... leurs représentants au niveau national et pour la politique qui va être menée, en tout cas ce qu'ils en identifient. Ce n'est absolument pas propre à l'électorat du RN, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne votent absolument pas pour leur député précis, mais pour, en fait, la politique qu'il y a derrière, le projet politique, la vision du monde qu'il y a derrière. Sur la question des médias, c'est quelque chose dont je parle effectivement assez peu dans mon livre. Je pense que c'est de ma part, ça faisait partie du geste que je voulais un peu faire, de s'intéresser aux conversations ordinaires, aux expériences de vie concrètes, et de, en tout cas, donner un autre son de cloche par rapport au discours qu'on trouve beaucoup à gauche, hein, qui insisterait avant tout sur la normalisation politique et médiatique du Rassemblement national en tant que parti, et notamment ses représentants. Évidemment, les médias ont un rôle considérable. Là, en plus, on a une véritable industrie médiatique au service de l'Union des droites ou du Rassemblement national. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre.
On en parle beaucoup sur ce plateau, oui.
Exactement. Non, c'est tout à fait nécessaire, évidemment, que ça ait une influence. Je pense que, par contre, il faut faire attention à deux choses. Premièrement, ne pas penser que ce sont ces médias qui sont responsables de l'émergence du racisme et de l'islamophobie en France. Ce n'est pas CNews ou Bolloré qui ont inventé le racisme dans la société française. C'est des racines bien plus profondes. Par contre, ils contribuent à le légitimer, l'exposer, c'est-à-dire le donner à voir de façon très régulière à un nombre très important de personnes, et aussi à le politiser. C'est ça la question la plus importante, c'est... Vous avez du racisme, mais qui est souvent présent depuis très très longtemps, racisme ordinaire, et encore une fois, y compris pas seulement à l'extrême droite. La question, c'est à quel moment ça devient une donnée politique, et notamment une donnée électorale. À quel point c'est transformé en vote. Je pense que c'est une des fonctions des médias de droite ou d'extrême droite, qui est de politiser cette question. de l'arrimer à des sentiments d'injustice et à une offre politique existante en invitant des candidats, etc. Le deuxième truc, c'est que je pense que il faut faire aussi attention à penser que les médias conditionneraient les masses, en quelque sorte, de manière unilatérale. C'est quelque chose qui est très connu en sociologie de la réception, qui est que les messages médiatiques sont toujours passés au filtre des visions du monde des téléspectateurs ou des auditeurs et auditrices, et aussi de leurs proches, c'est-à-dire les groupes primaires, les groupes sociaux concrets qui comptent pour les individus. Donc les électeurs ne sont jamais passifs face aux messages médiatiques, et c'est toujours articulé à des expériences de vie concrètes. Moi, je pense que j'étais un peu agacé avec ce cliché de des personnes sont tout seules, ne voient aucun immigré et sont devant leur télé, CNews, et du coup votent pour le Rassemblement National. Et encore une fois, ce n'est pas du tout pour nier l'importance de ces chaînes. Je pense qu'il y a une importance considérable et d'autres enquêtes sociologiques l'ont montré. Mais je pense que c'est toujours arrimé à, encore une fois, des conversations et aussi des formes de cohabitation avec des minorités ethno-raciales. Il me semble que ça doit être pris à des pincettes, le fait qu'ils ne voient jamais aucun immigré. Moi, j'ai travaillé, par exemple, il y a des personnes qui habitent dans des quartiers relativement préservés, avec toutes les guillemets pour ce terme, mais les individus, ils se déplacent. Et par exemple, le domicile et le lieu du travail, c'est pas le même, donc les personnes se déplacent en voiture, et, par exemple, traversent des quartiers où il y a une surreprésentation des immigrés et des étrangers, et ça peut alimenter des conversations. Et ça peut être articulé aux messages médiatiques que l'on entend par ailleurs sur les cités, etc. Il y a aussi l'importance des centres commerciaux, des supermarchés. Ça revient beaucoup dans les discussions dans les supermarchés, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui portent le foulard, par exemple. Et donc ça suscite un peu ce sentiment d'invasion, où ce n'est pas le proche direct, mais c'est le semi-lointain, on pourrait dire, et un semi-lointain inquiétant. Ça, c'est quelque chose qui a été bien montré par la science électorale, ce qu'on appelle le effet de halo. C'est-à-dire que la présence immigrée ou étrangère ou des minorités, c'est jamais souvent son quartier lui-même, mais le quartier proche ou la commune d'à côté ou la cité un peu lointaine, mais que l'on regarde avec appréhension. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre comment ça s'articule avec, voilà, les expériences de vie et les messages médiatiques.
Alors justement, vous parlez des électeurs, du cliché de l'électeur qui aurait vu à la télé. On en a entendu quelques-uns dans les médias et je voudrais qu'on regarde 2-3 séquences et qu'on voit comment c'est montré.
Être français, c'est déjà de prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes et nous mettre les coutumes à la con. Voilà.
Et qui respecte pas la France ?
Devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, mon tas de passe. Hein, voilà. Ben c'est les Mustapha, c'est les, tout ce que vous voulez.
Plus qu'ailleurs, Rassemblement National, est-ce que quelque part vous comprenez ?
Ouais.
Vous comprenez ?
Oui.
Ouais.
Après,
vous pouvez me dire oui, vous pouvez me dire que vous n'avez pas envie de me dire pour qui vous avez voté, mais vous...
Non, je n'avais pas, mais bon, ouais.
Pourquoi vous comprenez alors, du coup ?
C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses pour la sécurité qui est privée.
Ici ?
Ici, non, Quérandon...
Voilà. Quelle insécurité vous voyez ?
Non, mais pas parce qu'on voit la télé, quoi.
Ouais, ce que vous voyez à la télé.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous motive à voter RN aujourd'hui ?
La sécurité en France, malheureusement, bon...
Vous la vivez personnellement, vous, cette insécurité en France aujourd'hui ?
Pas spécialement, mais on pense aux autres avant tout aussi.
Par exemple, dans la rue, comme on voit surtout à la télé le soir, les femmes peuvent plus rester tranquilles dehors sans qu'on les siffle, Par exemple, il y a des viols partout dans les rues.
En voyant ces extraits, moi, la première chose que je me suis dit, c'est... Parce qu'il y a un des jeunes dans cette séquence qui dit après, mais de toute façon, moi, je vote pas pour moi, je vote aussi pour les autres. Et je me suis dit, en fait, c'est un argument tout à fait valable. C'est-à-dire que, même plutôt intelligent, de dire, c'est pas parce que ça m'arrive pas à moi que je dois pas m'en soucier. Est-ce que c'est un argument qui revient ? Ou est-ce qu'au contraire, on est sur du quand même très local, très personnel, très ce que je vois de ma fenêtre ?
L'argument « on vote pour les autres », je pense que c'est des arguments qui sont donnés par des militants, en tout cas des personnes très politisées, y compris à gauche. En fait, ce que montre la sociologie électorale, c'est qu'on vote avant tout, je l'ai dit, en fonction de ses groupes primaires et en fonction de ses intérêts divers. Je pense que voilà, le vote, c'est aussi ça. Après, évidemment, il y a une dimension fantasmatique, mais si vous voulez, là, y compris là, sur les viols dans la rue qu'on verrait tout le temps à la télévision. Je ne sais pas à quoi il fait référence, mais on sait que les agressions sexuelles et les viols, c'est très, très, très majoritairement par des proches dans la sphère familiale, dans la sphère conjugale, et pas du tout dans la rue, en tout cas de manière complètement minoritaire. Donc évidemment, il y a une part fantasmatique qui peut être alimentée par les médias, mais aussi peut-être par la fiction, par certaines imageries qu'on a, en l'occurrence là, du viol, qui est associée de façon raciste aux immigrés ou aux minorités. Mais peut-être, dans le premier extrait, donc c'est le reportage de...
D'Envoyé spécial.
D'Envoyé spécial. Et il dit, je le vois à la télé, je suis quand même pas con. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que du coup, dans ce reportage, ce monsieur, il a une voisine qui est noire et qui... Et on voit très bien, du coup, c'est ce qu'il voit à la télé, mais c'est ce qu'il voit aussi au quotidien. Et je crois que c'est à Montargis que ça se passe. Et en fait, bon, il y a des personnes issues de l'immigration à Montargis. Et donc, il y a aussi une expérience de cohabitation concrète qui s'articule avec ce qu'il peut voir à la télé, effectivement. Donc, je pense qu'il faut faire attention à cette idée de... les personnes n'auraient aucune interaction. Mais pourquoi c'est important aussi? Parce que du coup, ça a des conséquences concrètes. Là, en l'occurrence, avec cette dame qui se fait insulter et dégrader par ce couple. Et donc, c'est ça aussi. C'est que du coup, c'est pas seulement dans les médias. Ils sont tout seuls devant leur télé à insulter les Arabes et les Noirs. C'est qu'ils peuvent aussi les insulter, les Arabes et les Noirs, dans la vraie vie, si j'allais dire.
Et d'ailleurs, dans cet extrait, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, cette femme, donc la voisine de Divine Kinkela, qui est la victime de ces insultes racistes, dit « Mais les gens comme vous, je les ai connus dans les HLM, pardon. Sous-entendu, je ne suis pas venu ici pour vous retrouver dans la maison d'à côté. »
Ça, c'est quelque chose qui est très régulier, y compris chez les électeurs et les électrices que j'ai pu croiser, qui est que, ça, c'est quelque chose de très connu, parce que les classes populaires ou les professions intermédiaires, le monsieur, les plombiers, si je ne me trompe pas, à la retraite, un des modes de promotion sociale et d'ascension sociale, c'est de quitter les cités, les quartiers appauvris, et notamment les HLM, qui sont connotés, pas seulement à l'extrême droite, mais dans la société en son entier, à l'immigration, et notamment l'immigration extra-européenne racialisée. Et donc, quitter l'HLM, c'est un mode de promotion sociale. Pour habiter, pour acquérir une propriété, une maison individuelle, un pavillon. Et moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est justement qu'il y a des formes de ressentiment d'autant plus vifs que les personnes qu'on associait au HLM, en fait, sont, comme tous les Français, peuvent avoir de l'ascension sociale et peuvent accéder à la propriété et peuvent avoir envie d'accéder à un pavillon loin des cités. Et donc, c'est lorsque, justement, cet écart social, et en l'occurrence résidentiel, s'affaiblit, que le ressentiment raciste peut être d'autant plus fort, eux aussi. Et quand je parlais d'entre-soi blanc raté tout à l'heure, on est exactement dans cette situation. C'est-à-dire que j'ai essayé de quitter certains quartiers, j'y suis parvenu d'une certaine manière, mais ce n'est pas assez.
C'est-à-dire que c'est un ressentiment de « j'ai réussi, mais si t'as réussi aussi, ma réussite est moins forte, du coup ?» Moins valorisable ?
Moins valorisable, et en tout cas, il y a un sentiment, étant donné que qu'ils sont considérés comme moins légitimes que d'autres à être inscrits dans le corps social, ça peut être vu comme, étant donné que ce sont des individus qui se retrouvent dans des concurrence sociale pour l'accès à des biens rares, et les biens rares, ça peut être aussi des quartiers résidentiels, on a l'impression qu'ils transportent avec eux la cité. C'est un autre sociologue qui parlait de « iconic ghetto », c'est-à-dire il disait ben, les personnes noires aux États-Unis, par exemple, on a l'impression qu'ils se déplacent avec leur ghetto, en quelque sorte, avec les représentations qui y sont associées. Et là, ça peut être vu comme ça. C'est-à-dire, ben, en fait, eux aussi, ils y ont accès, ce qui n'est pas considéré comme normal. Et en plus, ça, c'est de mauvais augure pour le quartier dans lequel je vis.
Et alors, j'ai une dernière question sur tous les extraits qu'on vient de voir, notamment sur ces électeurs RN qu'on vient d'entendre, et sur ces candidats. On entend beaucoup, souvent, de moqueries sur leur façon de parler. leur accent, parce que parfois ils ont un accent fort régional, parfois ils font des fautes de français, parfois ils sont pas média trainés, on le sent bien, donc ils savent pas comment se comporter face à une caméra. Est-ce que ça c'est... est-ce qu'il faut arrêter, finalement, de mobiliser ces arguments-là pour les critiquer, alors que le fond de leurs propos suffit largement, devrait suffire largement à les disqualifier. Et est-ce que ça joue dans la vision qu'ont ces électeurs RN de leur parti et de ces élites, peut-être, pour le coup, culturelles, intellectuelles, qui les voient comme des beaufs, ce que disait tout à l'heure le journaliste de Marianne assez ce soir?
Oui, en tout cas, en soi, je pense qu'il faut très fortement distinguer les idées et condamner, en fait, lorsqu'il y a des propos racistes, lorsqu'il y a un fond raciste et antisémite qui s'exprime. Et par contre, je pense qu'effectivement, il faut faire très attention avec certaines prises de parole rigolardes, ricanantes, vis-à-vis de, des compétences, en fait, médiatiques de ces candidats. Effectivement, on le sait que la prise de parole publique dans les médias, c'est pas moi qui veux dire l'inverse, c'est quelque chose de très fortement inhibant. Il y a tout un ensemble de compétences et d'habituations à la prise de parole publique qu'il faut posséder. Et beaucoup de ces candidats, effectivement, ne les possèdent pas. Et donc, il me semble très important de distinguer les deux. Et on n'a pas besoin de se moquer sur l'éthos des individus pour critiquer leurs idées. Et par ailleurs... L'autre problème, c'est que, du coup, les personnes d'extrême droite compétentes, médiatiquement, eh ben elles vont être validées. C'est l'envers, en fait, de ces moqueries. C'est que, du coup, quand c'est des porte-parole qui sont très habiles avec les médias, ils vont parfois dire des choses qui, en substance, reviennent à peu près à la même chose en termes de stigmatisation des minorités ethno-raciales dans notre pays, mais elles, on ne va pas les ridiculiser et on ne va pas les attaquer, en fait. Et donc ma question, c'est ça. Quand le Rassemblement national arrivera à avoir bien tout régulé et professionnalisé tous ses élus et tous ses candidats, sans changer une ligne de son programme sur ce qui fait la colonne vertébrale de cette offre politique qui est la préférence nationale et un discours essentiellement critique vis-à-vis de l'immigration, quand ils seront tous professionnalisés et qu'ils parleront tous bien, qu'est-ce qu'on va dire? Donc je pense que la critique doit rester sur le fond.
Merci beaucoup, Félicien Faury. Et donc, je rappelle votre livre « Au seuil des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite ». Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, bon courage pour dimanche, mais on va se tenir chaud. À bientôt.